Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Jean-François Thibault, ingénieur et commentateur de l'actualité du secteur énergétique. Il évoque le décret présidentiel états-unien mettant fin au projet Keystone XL, censé transporter du pétrole albertain aux raffineries du Golfe du Mexique. La province de l'Ouest est laissée à elle-même et il ne reste qu'à espérer que la transition énergétique prenne le relais assez rapidement afin de ne pas appauvrir le pays en entier. Mais tout d'abord, Louis Bouchard nous propose sa chronique économique et nous présente la nouvelle patronne de l'Organisation mondiale du commerce, ou OMC, en la personne de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala. Cette ancienne directrice générale de la Banque mondiale aura fort à faire, alors que le gendarme du commerce mondial qu'elle dirige et qui défend le libre-échange et le multilatéralisme, fait face au renforcement du protectionnisme. Louis, bonjour.
Bonjour Jean-Philippe.
Alors on va commencer avec trois nouvelles comme d'habitude, j'imagine.
Oui, que j'ai retenu la semaine dernière. Alors, permettez-moi, je vais commencer avec une montée de lait. On a pu lire hier matin dans le journal de Montréal que certains fromages d'ici avaient une drôle de texture, que le beurre était souvent dur comme de la roche, puis le lait à café n'arrivait plus à mousser. Alors, ça a tiqué un peu mon intérêt. On pourrait appeler ça le scandale du beurre ou le Buttergate, en référence au Watergate. Donc, quand on rajoute un gate à tout ça, ça donne une odeur de scandale. On vient d'apprendre que on donne aux vaches de l'huile de palme et ça vient gâcher la qualité de ces produits-là. Donc, il paraît que les dernières années, les producteurs de lait, ils auraient commencé à mélanger de l'huile de palme à la nourriture qu'ils donnent à leurs vaches pour augmenter la matière grasse dans le lait, parce qu'ils sont payés au taux de matière grasse. Ça, en plus, ça donne du poids aux bêtes. Donc, quand ils vont les vendre, ben, ça fait plus de profit. Il paraît que dans l'industrie, ça serait un secret de polychinelle. Tout le monde le sait.
Tout le monde donne de l'huile de palme aux vaches.
Oui.
Mais il pourrait donner de l'huile de peanut, de l'huile d'olive,
oui,
non?
Voilà, exactement. Mais quand on boit du lait, c'est pas ça qu'on veut avoir. Il y a de nombreux producteurs qui étaient mal à l'aise, qui ont avoué au Journal de Montréal de recourir à cette technique, mais ils ont systématiquement refusé de donner leur nom. Alors, c'est une grosse aberration. En plus de ça, très souvent, sur des fromages faits ici, on met une belle étiquette « produit local », alors que l'huile de palme, ça vient de l'autre bout du monde, ça détruit des forêts, puis nous, on donne ça aux vaches. Bon, ils sont allés faire une enquête auprès des producteurs de lait du Québec, puis on reconnaît, oui, qu'entre 20-25% des producteurs utilisent de l'huile de palme pour des vaches qui ont des difficultés avec la lactation. Mais je m'excuse, là, une vache, ça mange de l'herbe, puis l'hiver, du foin, puis en principe, ça n'a pas besoin d'huile de palme pour augmenter son gras, là.
Mais pardonnez-moi, j'ouvre une parenthèse, Louis. Je veux dire, les îles de la Madeleine ont des vaches merveilleuses qui donnent le fabuleux fromage à pied de vent. Je ne crois pas qu'on mette de l'huile de palme.
Et
elle broute un pâturage hyper salé. On n'a qu'à mettre du sel sur le gazon, enfin sur l'herbe qu'elle mange, non?
Exactement. Donc, cette huile de palme-là, ben, elle provient d'Indonésie. C'est importé apparemment ici par gros conteneurs. Puis il paraît que ce produit-là est autorisé par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il paraît que ça vous rendra pas malade. C'est Sylvain Charlebois, qui est professeur à Dalhousie et spécialiste en économie agricole, qui disait espérer que l'industrie laitière pourra faire le ménage au plus vite, parce que surtout avec un tel constat, il y a une espèce de contrat moral entre les consommateurs et l'industrie qui est brisé.
On ira boire du lait chinois, vous allez voir qu'on regrettera le lait canadien.
Exactement. Moi, je viens d'une famille où on mangeait à l'époque de la margarine en disant que c'est moderne. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle a dit « Mais écoute, c'est de la chimie, c'est des huiles hydrogénées, il faut que tu... »
Donc, je suis passé
maintenant au beurre avec du vrai lait. Et puis, ben, souvenez-vous, les producteurs font tout le temps ces campagnes de publicité avec des musiques nostalgiques. Moi, je dirais, pour paraphraser une autre de leurs pubs, quand je dis « Passe-moi le beurre, passe-moi pas autre chose. » Là. Et puis, ben, on espère que ça va être corrigé le plus tôt possible.
Sinon, ben, je vous envoie à la filière chinoise, vous aurez votre beurre avec du plâtre dedans.
Voilà.
Deuxième nouvelle.
Oui, Air Canada. Canada, on a appris en fin de semaine que les revenus d'Air Canada, ils ont baissé de 70 % l'année dernière à cause de la pandémie puis des restrictions imposées aux voyageurs. Le transporteur a donc rapporté pour l'an dernier une perte de 4,6 milliards de dollars. Alors, en guise de comparaison avec l'an dernier de 2019, Air Canada avait fait un bénéfice de 1,5 milliard. Donc, vous le voyez, la pandémie, ça frappe fort dans ce milieu-là.
On n'est pas étonné.
Du côté des revenus, ils ont baissé de 66 % à 5,8 milliards, comparé à 13,3 en 2019.
Ah oui, c'est une sacrée baisse, oui.
Oui, c'est une. Et en plus de ça, l'entreprise a dû s'endetter. Il y avait une dette de un peu plus de 2 milliards. Ils sont maintenant à 5 milliards. L'entreprise constate que le nombre de passagers transportés a baissé de 73 %, c'est clair. Ouais. Avec la pandémie, et puis les voyages d'affaires. Donc, ça a fait dire au chef de la direction, Calin Rovinescu, que ça a été l'année la plus sombre dans toute l'histoire de l'aviation commerciale du Canada. Il y a toujours le projet d'acquisition d'Air Transat.
Oui, mais ça a du plomb dans l'aile. Les nouvelles d'aujourd'hui ne sont pas très bonnes.
Ne sont pas très bonnes. En principe, jeudi dernier, ils ont reçu l'approbation des autorités réglementaires canadiennes, mais il reste d'autres approbations, entre autres en Europe. C'est pas fait. Air Canada dit toujours qu'ils sont plus ou moins intéressés. Faut se souvenir, il y avait une proposition à 18 $ l'action. Donc, ça a été révisé par la suite à 5 $ l'action. Pendant ce temps-là, on sait que Pierre-Carl Péladeau, le patron de Québécois, il a soumis à titre personnel une proposition dite non sollicitée de 5 $ par action le 22 décembre dernier. Donc, on va suivre ça pour vous. On sait aussi qu'aujourd'hui, au gouvernement fédéral, on voudrait négocier un accord avec les firmes aériennes pour le remboursement des voyages et une aide aussi, un soutien. Donc, on va suivre ça pour vous.
On va suivre ça. On le suit depuis un an, de toute façon.
Dernière
nouvelle, oui, allez-y.
Le prix des ressources naturelles puis des denrées alimentaires explose ces temps-ci. Hier, le baril de pétrole West Texas Intermediate a franchi la barre de 60 $ états-uniens, une première depuis le 9 janvier 2020. Donc
c'est pré-pandémie. On revient au prix pré-pandémie, alors.
Exactement. Donc, d'accord. Je voulais savoir, mais pourquoi? Alors, les spéculateurs pensent que le déploiement du vaccin va bien. Donc, ils en fument du bon, je vous le dis, là, parce qu'au Canada, ça va pas très bien. Et donc, ça permet d'alimenter...
Mais grâce aux Indiens, on aura des doses bientôt, à ce qui paraît.
Exactement. Alors, ça permet d'alimenter l'appétit pour le risque et l'espoir que l'on va retourner rapidement à une certaine normalité. Mais même le bois d'œuvre est aussi à la hausse, car il y a tous ces gens-là qui font du bricolage à la maison. Donc, vous voulez acheter du 2 par carte ces temps-ci, il a augmenté. Il y a même des rumeurs qu'il va y avoir des fusions et des acquisitions dans le domaine des scieries, dans le bois. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Le minerai de fer est aussi à la hausse parce qu'en Chine, les aciéries chinoises ne fournissent pas. Ça affecte aussi les producteurs agricoles. Le prix du canola puis du soya sont à la hausse aussi. Il faut dire que c'est maintenant que se prennent les décisions pour ce qu'on va semer l'an prochain. Puis, il y a de nombreux producteurs qui vont se baser sur ces prix élevés-là. S'ils sont trop nombreux, l'an prochain, lors de la récolte, si elle est bonne, les prix vont tomber. C'est un peu ce qu'on appelle la malédiction des producteurs agricoles. Quand les prix sont bons, tout le monde se lance. Puis là, la récolte d'après, c'est moins bon.
Il nous reste 12 minutes pour faire le sujet principal, Louis Bouchard. Alors, on va du côté du Nigeria.
Oui, exactement. La Nigérienne Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée hier la première femme et la première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Il faut dire, ça va pas très bien là-bas. Donc, on l'a nommée dans l'espoir de mettre fin à des années de blocage. Ça a été une décision qui a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale. Elle va prendre ses fonctions le 1er mars et puis son mandat est renouvelable. Il se termine en 2025. Il faut dire aussi que, comme on l'expliquait, c'est une institution qui est presque paralysée, qui arrive presque plus à remplir sa mission. Donc, on va expliquer pourquoi. Pendant très longtemps, elle était dans la course, mais le gouvernement, le président états-unien Trump avait dit qu'il était contre sa nomination. Et donc, finalement, on a levé les obstacles à sa nomination. Faut dire, le dernier président, c'est un Brésilien. brésilien Roberto Azevedo. Il était parti à la fin de son mandat. Oui, à la fin de son mandat, il paraît qu'il y avait des problèmes familiaux. Avant Monsieur Azevedo, il y avait eu le règne du français Pascal Lamy entre 2005 et 2013. Oui, et on regarde ces années-là aujourd'hui, puis on se dit, mais en fait, c'est des années de rêve par rapport au bordel d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est l'Organisation mondiale du commerce? Ben, c'est un organisme international qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les différents pays. Donc, au cœur de l'organisation se trouvent les accords qui sont signés par les pays, entre autres celui d'avril 1994 qui avait été signé à Marrakech par la majeure partie des pays du monde. J'ai regardé, là, il y a 164 pays qui font partie de l'OMC.
Donc, pardonnez-moi, mais l'OMC n'a pas vu le jour en 1994, c'est beaucoup plus. C'est après la Seconde Guerre mondiale, non?
Après la Seconde Guerre mondiale, ça avait un autre nom, le GATT, à l'époque, pour s'assurer que le commerce international ne tombe pas dans ce qu'on avait vu dans les années 30, des dépréciations de monnaie. Un pays réagissait à l'autre et ça n'avait pas de fin, ça, mais vers le bas. Donc, on s'était dit, après la Deuxième Guerre mondiale, il faut que ça fonctionne mieux que ça. Donc, à partir de 2001, le cycle de négociation mené par l'OMC, c'est le cycle de Doha. On s'était réunis au Qatar. Retenez aussi cette date-là parce que c'est l'année où la Chine s'est jointe à l'OMC. Puis depuis ce temps-là, je dirais, on a probablement mal négocié l'entrée de la Chine. L'OMC, c'est pas une agence de l'ONU, bien qu'elle entretient des liens avec cette dernière. Bon, le siège de l'OMC est à Genève, sur le bord du lac, dans les anciens bureaux mis à la disposition par la Ligue des Nations. Ça, c'est l'ancêtre de l'ONU lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est les anciens bureaux de l'Organisation mondiale du travail qui ont déménagé.
Au bord du lac Léman, le très beau lac de Genève,
Exactement. Ils ont environ 650 employés, puis un budget annuel de 220 millions de dollars états-uniens.
Ça n'a pas l'air très gros, ça, Louis Bouchard,
pour
un tel...
Pour tout un programme, je dirais, mais c'est un machin important, pour ainsi dire. Pourquoi? Prenez le Canada, par exemple. On dit souvent que le Canada, c'est un petit pays ouvert aux investissements, aux biens et services qui viennent de l'extérieur, et on génère environ 40 % de notre PIB en vendant à l'extérieur de nos frontières. Et de ce 40 %-là, il y en a 75 % qui va aux États-Unis parce que c'est notre voisin le plus près.
Donc, il y a 60 % de notre PIB qui est soutenu par la demande intérieure.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est
et 40
%
et 40 % qui vient de l'extérieur. Donc, c'est une proportion importante. Donc, il faudrait que ça marche bien. On a fait, en gros, ce que les économistes voulaient de nous. On s'est spécialisé dans ce qu'on se faisait de mieux, à moindre coût. Pensez, on produit, par exemple, de l'électricité. Donc, l'aluminium puis de magnésium, de produire ça ici, ça fait du sens. Et on a balancé nos industries nationale qui était protégée par une frontière et un tarif. Pensez par exemple au textile. Donc, ces temps-ci, le protectionnisme revient à la mode. Ça risque de nous créer certains problèmes. On le sait avec les États-Unis, la renégociation de l'ALENA, ça a été un autre problème. Mais aussi, avec la pandémie, ça remet ces problèmes-là à l'avant-plan. Pensez aux masques, mais aussi aux vaccins. Le Canada, il est dépendant du bon vouloir de certains pays puis de certaines entreprises.
Alors qu'en 70, on était à 85 % autosuffisant en termes de vaccins. Faisait nous-mêmes nos vaccins.
Exactement. Donc, les entreprises qui en faisaient sont passées sous pavillon étranger et très souvent, ils ont délocalisé parce que les économistes leur disaient, allez dans un pays où la production est plus grande et puis votre coût de revient va être moindre. Donc, alors, Éric Desrosiers, hier, dans Le Devoir, avait une très bonne analyse. Il expliquait que l'OMC a été incapable depuis 20 ans de trouver un consensus qui lui permettrait de tenir sa promesse faite à Doha, surtout envers les pays en voie de développement. Vous savez, les grands machins, pour ainsi dire, l'Union européenne, l'ALENA, le Transpacifique, c'est des grands... Mais très souvent, ça laisse des pays africains, entre autres, un peu en dehors de ça. Donc, au cycle de Doha...
Louis Bouchard, c'est pas étonnant. Dès qu'il y a plusieurs qui se mettent ensemble, c'est toujours le ou les plus forts qui dictent la loi, même si c'est toujours un homme, une voix.
Oui, mais... pourrait dire, ben, l'économie va parler. Prenez l'exemple du coton. Le Mali puis l'Égypte, ils en produisent du bien meilleur et de bien meilleure qualité à coût moindre que ce qui se fait aux États-Unis. Mais les États-Unis veulent continuer à protéger leur marché puis leurs producteurs, bien qu'ils soient plus élevés. Bon, il y a des raisons historiques à ça. Vous savez, le Mississippi puis King Cotton. Les entreprises états-uniennes comme Levi's voudraient avoir du coton à moindre prix, mais on considère que c'est important de protéger l'agriculture états-unienne. Donc, on le voit, l'impasse et se fait. Évidemment, on le disait, l'OMC remplace ce qui s'appelait à l'époque le GATT, le
General Accord
on Trade and Tariff, l'accord général sur les tarifs douaniers, le commerce en anglais.
Mais ça date de quoi? Des années 45, non?
Oui, 45-46, là, après la guerre, on voulait s'assurer que le commerce international, mais à l'époque, évidemment, on s'échangeait quoi? De l'acier, quelquefois des bananes, des choses comme ça. Aujourd'hui, ben, le programme, c'est le commerce électronique. Ça rentre où, ça? L'investissement étranger. En 47, on n'en parlait pas. La lutte au changement climatique, ça a l'air de rien, mais si la Chine ne joue pas avec les mêmes règles que nous, on dit, ben, on a une taxe sur le carbone, mais la Chine ne veut pas en avoir, ben, on le voit. Le respect minimal des normes du travail. Donc, tout ça, c'est l'OMC et ils n'arrivent pas depuis 20 ans. Donc, c'est pour ça que l'organisation est un peu en déroute. Donc, et de plus en plus...
Mais c'est parce que depuis que la Chine est entrée... Pardonnez-moi, mais c'est depuis que la Chine est arrivée que rien ne va plus ou est-ce qu'il y avait déjà des fissures?
Ça remonte un peu avant
plus loin, quand même.
Oui, plus loin. Les produits agricoles, les pays cherchent toujours à protéger leur agriculture. Mais de plus en plus aussi, on le voit, le multilatéralisme est remplacé par le bilatéralisme.
C'est-à-dire qu'au lieu de négocier à plusieurs, on négocie entre deux.
Entre deux. Donc, les partenaires les plus importants. Donc, pensez à notre relation avec les États-Unis, bon, qui a été élargie au Mexique, mais on se protège. La nouvelle ALENA, on est derrière ce bloc-là. Donc, comme on le disait, l'OMC, elle veut promouvoir le multilatéralisme.
Mais pardonnez-moi, Louis Bouchard, je vous interromps encore une fois, mais avec Joe Biden, le démocrate, il est multilatéraliste, même s'il est très protectionniste. Je veux dire, Trump était, ben, il le disait, il ne voulait pas, il voulait mettre la hache dans le multilatéralisme et il l'a fait énormément. Biden veut revenir aux années avant Trump, malgré les réserves que j'ai émises. Je veux dire, les choses vont quand même aller mieux pour l'Organisation mondiale du commerce, qui est une nouvelle directrice.
Mais il faut régler le problème de la Chine. Et je dirais que probablement que le gouvernement Biden a à peu près la même approche face à la Chine. Moins la rhétorique guerrière, mais dans le fond, ils ont la même analyse économique. Puis ça fait en sorte que quand on a laissé rentrer la Chine, c'était pas encore un géant économique là, que l'on sait. Et il aurait fallu probablement imposé lors de son entrée en 2001, des conditions plus sévères, surtout au niveau des entreprises d'État. On le sait, Huawei, par exemple, c'est contrôlé probablement par l'armée populaire de Chine. Qu'est-ce qu'on fait aussi de son accès au marché? On le sait, c'est très difficile de rentrer sur le marché chinois, à moins d'avoir un partenaire local qui détient 51% des actions et qui, très souvent, après quelques années, va vous larguer et qui devient votre principal concurrent. Bombardier en a fait les frais, pour ainsi dire. Donc, il faut dire aussi, les États-Unis comprennent ces temps-ci que l'OMC, il y a un bras armé à ça. C'est son mécanisme de règlement des différends. Il y a un tribunal et c'est pas seulement un simple arbitre, mais il est en train de s'instituer comme un véritable tribunal international avec un pouvoir d'interprétation puis de jurisprudence.
Pardonnez-moi, Louis Bouchard, mais attendez, d'un côté, vous nous dites que l'Organisation mondiale du commerce a du plomb dans l'aile. Tous les membres se tiraillent les uns les autres et la Chine n'aide pas du tout, encore moins que tout le reste. Et en même temps, ils ont un pouvoir contraignant parce qu'ils ont un tribunal international. Non. D'un côté, l'OMC bat de l'aile, mais de l'autre côté, il a un tribunal hyper puissant. Il me semble qu'il y a une contradiction.
La difficulté, c'est de lorsqu'il rend un jugement, par exemple, les pays ne respectent pas. Donc, il y a seulement, c'est un tribunal qui est moral. Vous avez été... trouvé coupable, mais très souvent, la Chine ou les États-Unis ne respecteront pas cette décision-là. Un peu, je dirais, comme...
Alors que les petits pays seront forcés, oui.
Exactement. Bon, on on va souhaiter quand même bonne chance à la nouvelle présidente dans ses fonctions. Elle est bien qualifiée, je dirais. Elle a 66 ans. Elle a étudié l'économie à Harvard et au MIT.
Elle a été
deux fois ministre des Finances du Nigeria, où elle a renégocié la dette de son pays.
Faut pas oublier non plus que le Nigeria, c'est quand même le pays le plus populeux d'Afrique, le premier producteur de pétrole. C'est une sacrée grosse économie. Hein.
Exactement. Elle a été aussi directrice générale de la Banque mondiale.
Ouais, ouais.
Donc, on dirait avec un tel CV, on pourrait penser qu'elle est bien outillée. Mais il faut dire, le fond de l'air, il est pas très bon pour le libre-échange ces temps-ci. Je dirais même, il est battu en brèche un peu partout sur la planète. Surtout à cause de la pandémie. Là, on se rend compte que ne pas avoir, par exemple, une protection minimale pour la production de vaccins local, c'est peut-être pas une bonne idée. Là. Donc, les pays remettent en question leur relation avec la Chine. Ça, je dirais, c'est l'éléphant dans la pièce, pour ainsi dire. Et l'OMC devra trouver un moyen, mais c'est un peu le défi qu'on a tous à faire face ces temps-ci, la nouvelle relation du monde avec la Chine.
Alors, on souhaite bonne chance à la Nigériane Ngozi Okonjo-Iwe, à la nouvelle patronne de l'Organisation mondiale du commerce en pleine tourmente, alors que cet organisme voué au multilatéralisme se heurte à la tentation bilatérale qui fleurit un peu partout dans le monde. Louis Bouchard, merci beaucoup. On vous retrouve encore une fois dans une semaine.
Comme toujours.
Voilà, merci beaucoup.
Au revoir.
À venir sur les ondes de Radio VM, Keystone XL, l'Alberta, laissée à elle-même. Restez avec nous sur les ondes de Radio VM. On vous revient après la pause publicitaire.